C'est l'heure de l'invité de la matinale.
Here we go. Mercredi 24 octobre, nous avons eu l'opportunité de nous rendre à la galerie Vasista. Nous avons rencontré Jean-Paul Guarino, qui s'occupe des expositions de la galerie, mais aussi les trois artistes de l'exposition de l'influence des rayons alpha, Sarah Vial, Vincent Bête-Baiser et Sylvain Fraisse. Certains artistes de l'exposition ont reçu le soutien de la DRAC Occitanie. Les œuvres sont exposées depuis vendredi 26 octobre jusqu'au 8 décembre. Nous vous invitons à aller y faire un tour. Le titre de cette exposition est une référence au film de Paul Newman, de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Pourquoi ce choix ?
C'est un film que j'avais beaucoup aimé, puis surtout utiliser un titre de cinéma, c'était pour rejoindre le sujet de l'exposition, à savoir des œuvres qui existent parce que le cinéma existe. Si ce médium ou si les œuvres cinématographiques n'existaient pas, ben ces œuvres-là n'existaient pas. Donc voilà, donc c'était une référence légère au cinéma, de la même manière que les références dans les œuvres des artistes sont légères aussi. En tous les cas, elles sont. Si on a la référence pour chacune des œuvres, évidemment, on est encore plus nourri d'informations. Mais les œuvres sont accessibles néanmoins, même si on n'a pas ces éléments-là. Donc voilà, ce titre. J'ai rejoué de l'influence par de l'incidence du cinéma sur les arts visuels.
Une question pour les artistes. Il semblerait que vous ayez puisé vos inspirations dans l'art cinématographique. Mais en cassant un peu les codes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ?
On reprend souvent de la matière première issue du cinéma pour la déplacer ou la confronter à d'autres éléments et pour faire opérer des transfigurations, des transpositions et la recontextualiser, la renouveler finalement dans un autre contexte donné qu'on définit nous-mêmes.
Et c'est une bonne manière, je trouve, aussi de questionner l'image, en fait, plus que simplement le cinéma. Je crois que ce qui est au cœur, avant tout, de nos démarches, c'est un questionnement sur l'image. Donc, fatalement, le cinéma peut avoir une incidence là-dedans.
Est-ce que, rapidement, vous pourriez nous présenter les pièces que vous exposez ?
Alors, une pièce qui s'appelle Rosemary, qui est une reproduction générique à base d'anxiolytiques, donc du Xanax, d'une affiche, d'une couverture du Times Magazine du 8 avril 1966, donc qui était intitulée « Is God Dead » en rouge sur fond noir. Et donc c'est une affiche qui est apparue dans un moment charnière aux États-Unis, qui, donc à la période d'incertitude de la désillusion et du chaos spirituel qui s'opérait, qui rendait compte des réalités sociales et politiques de l'époque, donc la fin de la guerre du Vietnam, la fin de la décennie Peace and Love. La menace qui venait plus de l'intérieur du foyer plutôt que de l'extérieur. Et voilà, la naissance de l'église de Satan, etc. Du coup, donc c'est aussi la période d'essai et de mise en circulation de pas mal d'anxiolytiques. Et du coup, cette affiche fait référence au film Rosemary Baby de Polanski, donc qui a été tourné en 1968 et dont l'histoire se déroule en 1966, donc la même période de la sortie de cette couverture, et qui apparaît dans le film. Et donc le film relate la manipulation d'une jeune femme, donc le personnage de Rosemary Woodward, et qui enceinte est persuadé d'engendrer en fait la naissance de l'Antichrist. Et donc tout le film se déroule sur cette supposée naissance et à savoir si elle est vraiment à l'origine d'un point de vue du hors-champ, de sa grossesse, si elle est vraiment à l'origine d'une grossesse monstrueuse ou si effectivement elle est dans un fantasme maternel poussé ou paranoïaque. Voilà, c'est relatif à cette époque où tout semblait possible à cette époque-là. Et donc du coup, en utilisant comme matière donc du Xanax, l'idée c'était opérer une sorte d'hors-champ du point de vue organique, donc c'est-à-dire entre la matière visible de l'œuvre, donc qui est de la poudre du Xanax, et une matière invisible qui est sa molécule, c'est-à-dire une molécule de benzodiazépine qui est dans pas mal d'anxiolytiques, mais aussi des somnifères, et qui pose pas mal de problématiques aujourd'hui, en tout cas de, qui est sujet à discussion, parce qu'elle génère beaucoup d'accoutumance et donc pose problème sur des mauvais traitements ou des mauvaises interprétations de traitements ou voire de l'automédication avec les somnifères. Donc voilà, c'était remettre, replacer ce hors-champ du film à une matière composée organique.
Alors dans l'exposition, je présente une série de deux nouvelles photographies qui ont été produites pour l'exposition en lien avec un autre projet que j'ai commencé maintenant il y a 2 ans autour du film La Ventura de Michelangelo Antonioni. Donc après un déplacement en Italie de quelques jours, j'ai ramené une quantité de photographies témoignant de toutes mes recherches autour du film et autour de ce territoire en Italie, donc dans les îles éoliennes, au-dessus de la Sicile particulièrement, qui est le lieu de la disparition de l'héroïne du film, d'Anna. Et de ces photographies, j'ai cherché donc à développer un travail pour ne plus qu'elle soit dans un statut de documentation, mais de d'œuvre à part entière. Donc ce qui m'a beaucoup influencée, ça a été la trouvaille d'une collection d'images au iFilm Institute d'Amsterdam qui récolte des fragments d'images amateurs sur pellicule, et la manière dont ils ont trouvé pour les conserver étant de coller ces fragments de pellicule les uns aux autres pour constituer des bobines. Et cette technique m'a semblé assez pertinente à transposer à mes images, c'est-à-dire de composer une image avec plusieurs images. Donc ça fonctionne par fragments, les unes sont collées par rapport par-dessus les autres, mais tout en respectant aussi ces images dans le sens où les frontières entre elles puissent dialoguer et avoir une plénitude. Une deuxième pièce qui est présente dans l'exposition, donc c'est de gros blocs de pierre calcaire sur lesquels ont été transférés même des images de capture d'écran de films. Donc il y a plus d'une vingtaine de films présents que j'ai fait lors de mes visionnages, et ces captures d'écran représentent des gros plans finalement de mains posées, la plupart du temps sur un autre protagoniste. À la fin de La Ventura, il y a une image très marquante justement de cet acte-là, et je pense que c'est cette image-là qui a déclenché la collection de cette série. Et ces pierres calcaires donc deviennent le réceptacle de cette image très noire finalement, parce que c'est des images en noir et blanc, donc il n'y a que l'encre noire qui est accolée à la pierre. Et ces images font écho à un texte de Marguerite Duras sur lequel on a travaillé avec Sylvain pendant une résidence en Lozère, dont il vous parlera après aussi. Et elles font écho aux mains négatives, donc qui sont aussi présentes dans les peintures pariétales. Et il y a tout un lien comme ça avec le cinéma qui est, avant d'être une prouesse technique, je pense une invention aussi de l'homme pour l'homme, de la caverne de Platon jusqu'à aujourd'hui. Le cinéma est quelque chose qu'on s'approprie tous, de par l'expérience physique aussi qu'on vit au cinéma, mais ce qu'il en reste aussi en nous par la suite, ces films qui viennent marquer et influencer aussi nos visions et nos manières de se construire aussi finalement un petit peu. La vidéo qu'on a fait avec Vincent, je l'introduis et je te laisse parler de la technique. C'est une vidéo donc qui est basée sur, enfin qu'on reprend carrément le film de Michelangelo Antonioni, Blow Up. Donc un film marquant dans les années 60 aussi, de par encore une fois une intrigue irrésolue donc dans la trame du film choisi par Michelangelo Antonioni. Dans Blow Up, donc on voit un photographe qui parmi ces séances de shooting, il se balade dans un parc et pense assister à un meurtre. Et donc, quand il va développer ses photos, petit à petit, donc la séquence est assez belle au cinéma, c'est qu'en développant, il part sur un format assez large où on voit vraiment le paysage. Petit à petit, on rentre vraiment dans le grain de l'image et il opère un zoom. Donc à l'époque, c'était un développement argentique. On voit vraiment toute la séquence assez belle où il est dans quelque chose de très physique, où il est presque en lutte avec cette image pour comprendre cette énigme qui s'ouvre un peu à lui. Et il arrive donc à un grossissement ultime. Je pense que c'est le grossissement qui peut pas avoir plus grand par rapport à la technique qu'il a, où on est dans une image, un zoom. Donc nous, on a calculé le nôtre de zoom à
3200% sur une échelle, et donc on arrive donc dans le film sur l'image photographique, ça ramenait à une nuée de points, donc de par le grain du papier, et donc nous l'idée c'était de ramener sur le film d'Antonioni sans toucher à la trame narrative, mais d'amener à une hyperfocalisation dans la matière même de l'image. Et donc pour ce faire, on a pris une des dernières versions restaurées 4K du film, sur lequel on a opéré, donc on a cherché l'échelle de cet agrandissement, donc on a finalement fait exactement les mêmes choses que le protagoniste dans le film. Donc on a agrandi le film en plein centre, et du coup on se situe à la limite entre le pixel et le grain. Et donc là c'est une pièce, c'est la première version de cette pièce, et donc du coup elle est montrée sur moniteur vidéo, donc des cubes qui étaient largement utilisés dans les années 80 pour l'art vidéo. Et la deuxième étape de cette pièce sera de transférer ce film, ce master donc, qui est pour l'instant numérique, sur la bande argent 16 mm, et donc de ramener du grain au film au détriment de sa lisibilité. Et donc le film sera projeté pour le coup avec un projecteur 16 mm, et une dernière agrandissement sera possible à partir du 16 mm pour le gonfler en 35 mm. C'est-à-dire que le 16 mm est utilisé par ceux qui font du documentaire ou des réalisateurs qui ont peu de moyens, et après cela permet de gonfler donc le 16 mm en 35 mm, et donc là on rajoutera encore une couche de grain, et ça nous permettrait de diffuser de manière événementielle, d'opérer un retour du film en salle. Donc voilà, ce qui nous intéressait c'était le cheminement inverse, partir du numérique pour dégrader l'image et contrer l'évolution naturelle d'une image lissée et sublime pour aller vers un questionnement sur un cinéma de l'irrésolution.
Moi, pour ma part, je présente une série de croquis, de dessins, qui s'appelle Tystnaden. Tystnaden, ça veut dire c'est le nom original du silence de Bergman, donc en suédois. Pratiquement tous les dessins sont issus de captures d'écran de films de Bergman. Pas seulement du silence, mais il y a aussi Persona, il y a L'heure du loup. Moi, c'est un cinéaste dont je me sens, enfin, sur lequel je travaille pas mal, en fait. Notamment sur Monica, là, actuellement, dans d'autres pièces. Mais c'est ce qui m'intéresse chez lui, c'est cette espèce d'incommunicabilité permanente qu'il y a. Le fait de retravailler ces captures d'écran, donc de ralentir ce flux tout d'un coup, d'une manière très simple, très classique. C'est-à-dire que c'est des dessins, tout ce qu'il y a de plus classique. En choisissant bien mes images, mes moments, à chaque fois, je viens imprimer au jet d'encre, quoi, le sous-titre en anglais au moment de la scène, quoi. Ça, cette espèce d'impression très domestique sur le dessin vient annuler l'image quelque part, vient amener une espèce de non-sens entre les deux. Je présente une autre pièce qui est justement en lien avec l'installation de Sarah sur les mes négatifs, puisque c'est une pièce qui a été produite dans le cadre de la même résidence. C'est la photo d'une installation que j'ai faite. L'installation, c'était en fait une grande palissade qui devait faire à peu près 4 mètres par 3, sur laquelle était dessinée au fusain une image qui était extraite d'une petite gravure du 18e siècle qui représentait un enfant qui regardait au travers d'une lanterne magique. Lanterne magique, c'est ce qu'on pourrait appeler comme l'ancêtre du cinéma. C'était un processus en fait qui visait, c'était comme des genres de petits négatifs qui étaient dessinés sur des plaques de verre. Il y avait donc une espèce de chandelle à l'intérieur et ça projetait sur le fond de la paroi sainte. Ce rapport-là, cette technique m'intéresse beaucoup parce que dans mon rapport au dessin, comme chez Pline l'Ancien par exemple, dans L'origine du dessin, le rapport chandelle, un corps qui projette une ombre contre un plan, et donc c'est le contour de ce plan est dessiné en premier, et donc le dessin est une matérialisation première d'une absence en fait. En utilisant le fusain, ce qui est un matériel qui s'abîme, qui est non pérenne, j'aime m'interroger sur la perte des images finalement. Donc cette palissade, elle a été montée sur le Cosméjean et elle a été laissée plusieurs mois, qui est un endroit qui est un petit peu hostile climatiquement. Et elle y est restée, s'y est détruite petit à petit. Donc pour garder une espèce de trace justement de cette installation-là, on a fait un tirage photographique maintenant qui est donc présent dans l'exposition.
Est-ce que vous vous accorderiez sur le fait qu'il y a quand même un aspect un peu intemporel dans toutes vos œuvres, dans le sens où vous, comme on disait, vous détournez un peu les codes de l'image du cinéma pour en faire quelque chose de nouveau, mais qui s'inscrit autant dans le passé, du coup, parce que c'est des anciennes images, dans le présent, mais qui tient aussi compte de ce que ça pourrait donner plus tard dans le futur.
Tous les films qui sont dont on fait écho sont assez assez anciens.
Et on travaille assez intemporel aussi en soi. Après, nous, on annule rien en fait. On rajoute, on rajoute des couches ou.
C'est des strates de lecture qui sont autant personnelles, mais aussi recontextualisées.
Pourquoi est-ce qu'il y a un peu cette concentration sur l'aspect fragmentaire des choses que vous utilisez?
Dans mon cas, je pense que c'est une volonté de ralentir un flux aussi. Très souvent, je passe le médium que j'utilise est la gravure, c'est-à-dire quelque chose d'assez ouvrier et puis d'assez long comme processus. Moi, dans mon cas, je crois que c'est dans ce rapport-là aux choses. Quoi. C'est à un moment donné venir suspendre un temps et lui donner une autre matérialité, une autre temporalité.
Et le fragment, je pense que c'est intéressant à travailler parce que on le pense petit, donc rassurant, mais généralement quand il est bien choisi, il contient beaucoup plus que ce qu'on peut voir à première abord.
C'est lié aussi à la technique, quoi. Le cinéma, c'est juste une succession d'images fixes, donc si on les prend par fragments, on est dans autre chose.
Comment s'est pensée l'expographie?
N'importe comment, il n'y a pas l'envie de faire du spectaculaire. Hein. On montre ce qu'il y a à montrer. Et puis quand les pièces sont de qualité, je peux le dire, hein, j'y suis pour rien. Quand les pièces sont de qualité, en accrochant simplement, ça marche. Hein. Alors c'est vrai que comme ça, moi, et d'ailleurs c'est partagé, on trouve ça très bien. Mais je pense qu'il y aurait une autre version qui marcherait très bien aussi. Hein. Les pièces sont bonnes.
Et pour terminer, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à cette exposition ?
Non, on est déjà heureux d'avoir l'opportunité de montrer notre travail et pour certaines de produire des pièces. Donc déjà rien que ça, c'est l'attente, c'est faire des choses. C'est pas
et le partager,
donner à voir quoi.
Au public ou avec des rencontres avec le public. Quoi.
C'est déjà je pense qu'on est contents parce que c'est la première fois que tous les trois on expose ensemble et que c'est des questions dans l'exposition qu'on a en commun tous les trois dans nos pratiques
et que c'était une bonne idée
de nous rassembler tous les trois parce que on se connaît maintenant depuis quelques temps et c'est la première fois qu'on a la chance de construire aussi tout ça ensemble sur ces questions du cinéma qui nous sont assez chères à tous les trois quoi.